résoudre sur un standard unique. Ce standard unique est construit par la technique, alimenté par l'énergie électrique. Dans la spiritualité, c'est la même chose. Ce standard unique, il est la constitution occulte de chaque individu et il est alimenté par l'énergie christique, qui est la seule image vis-à-vis de laquelle je vous autorise une identification. Toutes les autres images, je les veux mortes, dissoutes. Je veux que vous les chassiez. Il faut les traquer comme de la vermine. Il faut les traquer comme des voleurs de grand chemin. Parce que c'est ce qu'elles sont. Ces images sont des voleurs. Elles vous volent tout. Elles vous volent votre bonheur. Elles vous volent votre énergie, votre richesse. Que fait un homme pour avoir de beaux vêtements? Il dépense tout son argent, même celui qui aurait dû lui servir pour la nourriture. Il dépense tout l'argent qui aurait dû lui servir pour une bonne œuvre, par exemple, ou qui aurait dû servir à son épouse. Un jour, qu'elle serait tombée malade. Pour faire vivre ces images, pour alimenter ces images, l'homme est capable de devenir très pauvre. Et il s'appauvrit en vérité. Et il meurt. Parce qu'ayant distribué toute son énergie en nourrissant ses furies de bas étage, automatiquement il arrive un jour où il est affamé et où il n'a plus rien à se mettre sous la dent, même pas la grâce de Dieu. Car à ce moment-là, la grâce de Dieu, ce serait comme un grand repas après une grande famine. Ce serait le meilleur moyen de le faire périr. Parce qu'un estomac qui n'a pas mangé depuis longtemps ne peut pas tout d'un coup faire un immense repas. Donc, si vous voulez comprendre quoi que ce soit à la spiritualité, si vous voulez faire quoi que ce soit avec l'ésotérisme que vous étudiez, ou avec les instruments auxquels on vous donne accès dans les temples que vous fréquentez, si vous voulez m'avoir croisé, et ne pas m'avoir fait parler pour rien dire, interrogez-vous à propos de l'identification. Sachez qu'à l'intérieur, il y a cette unité dont j'ai parlé au début. Mais cette unité n'est pas à l'intérieur de vous comme il y a le pépin à l'intérieur de l'orange. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut rejoindre parce que l'on se propulse vers l'intérieur du fruit. C'est vrai que l'on peut rencontrer le pépin de l'orange si on pointe le couteau jusque dans le cœur de l'orange. Si donc on arrive à franchir tout l'espace qui va de l'écorce au cœur. Mais pour trouver le cœur de l'homme, il ne s'agit pas de franchir un espace. Il ne s'agit donc pas de dilater le corps astral, de le purifier. Puis de développer le corps mental, puis plus loin de développer le corps boutique, le corps causal, jusqu'à ce que finalement on arrive en haut du sapin de Noël et que l'on est capable de décrocher l'étoile. Voilà, j'ai parcouru la distance qui va de la matière à Dieu. Même si j'admets qu'il peut y avoir des abstractions et qu'entre-temps on se dise, eh bien, la distance est immatérielle, ce sont des dimensions. Eh bien, même cette abstraction-là que tu fais est encore trop dense. Elle est encore une illusion. Pour que tu comprennes comment tu peux basculer dans cette étincelle qui est en toi, qui compose ton cœur et qui est hors de portée de tes désirs et de tes efforts personnels, il faut tout simplement que tu admettes qu'il n'y a ni temps, ni espace, ni corps, ni évolution, ni alchimie, ni devenir. Tu ne deviens pas Dieu. J'entends dans l'esprit beaucoup de personnes qui disent à travers la planète, je veux devenir Dieu, je veux devenir un maître, je veux devenir un initié. Et moi, je lui crie, eh bien, tu ne fais que devenir un âne quand tu dis cela. Plus tu deviens, et moins tu deviens ce que tu cherches. Le devenir est quelque chose qui a lieu dans le temporel et dans la dualité des énergies. Regarde ce que tu deviens dans la dualité des énergies. Regarde ce qui s'est passé. Regarde ce qui a eu lieu en toi. Tu es devenu la matière, ça oui. Ah, tu l'es devenu. Et tu as découvert d'un seul coup le diable et le bon Dieu. Tu as passé des générations à tuer ton voisin, à étrangler ton frère, à violer ta sœur, à voler ta mère, à cracher sur la face de Dieu. Tu as passé des générations à essayer de te faire pardonner. Et puis dès que le réflexe de ton mental ou dès que le réflexe de ta bonne volonté s'effaçait, tu redevenais mauvais. Et lorsque tu retrouvais tes esprits, tu allais voir monsieur le curé et tu essayais de te confesser. Ce qui fait que sans arrêt, tu allais d'une colonne à l'autre à l'intérieur du temple. Sans arrêt, tu oscillais entre le noir et le blanc. Mais il fallait tout ce temps pour qu'en zigzagant à gauche, à droite, tu arrives à remonter l'espace qu'il y a depuis les colonnes jusqu'à l'autel. Et au moment où tu es à l'autel, il n'est plus question d'aller à gauche ou à droite. Tu restes au milieu, là où il y a la présence. Là où s'effectue le mystère. Alors tu peux imaginer et tu peux choisir librement, pendant encore des générations, d'aller à droite et à gauche. Tu peux le faire. Je n'ai rien contre ce genre d'itinéraire. Je ne vais pas te plaindre et je ne vais pas t'encourager. Sitôt que tu te taperas contre la colonne noire, eh bien, tu feras toi-même tes pansements. Et sitôt que tu t'embelliras grâce à la colonne blanche, eh bien, tu seras le seul à crier des louanges. Nous ne disons rien, ni quand tu as mal, ni quand tu es beau. Parce que tout cela n'est que mirage. Par contre, là où nous t'attendons, c'est dans le milieu. Et c'est cette voix dont je veux te parler. Ce n'est pas de celle qui te fera sans cesse aller de gauche à droite. Il y a une multitude de voix qui vont comme cela de gauche à droite. Et pas parce que dans les sens, elles sont constituées pour aller de gauche à droite, mais tout simplement parce que l'habitude a été prise par les anciens qui sont venus après l'initié, après le fondateur, et qui étaient moins purs que lui. Et qui, tout en préservant le verbe, le mot, l'initiation, le mantra ou le rituel, se sont amusés aussi à aller de gauche à droite. Alors si tu suis leur mouvement, tu seras quelqu'un que l'on dupe, parce que tu auras l'impression de travailler pour ton évolution, de travailler pour obtenir le baptême, et tu seras pris, tu seras ficelé dans un duel. Le duel qui est lui-même en train d'assassiner le temple. Alors quand tu vois des temples qui fonctionnent de cette manière-là, ne te dis pas, eh bien je vais rester parce qu'il faut bien qu'il y ait un dernier homme qui soit là pour tout récupérer quand cela va s'écrouler, afin que ce dernier homme puisse prendre les outils et aller tout rebâtir ailleurs. Ne reste pas, ne te dis pas cette chose, c'est un mirage. C'est le mirage de ton mental. C'est le mirage de ce mauvais ange qui est à l'intérieur de tout homme et qui cherche tous les moyens pour retarder l'éveil de la lumière, la venue de l'ange de la présence. Et ce mauvais ange-là, il est capable de mettre toutes sortes d'idées dans la tête, dans l'esprit. Il est capable d'éveiller toutes sortes de faux désirs. Il est capable d'éveiller toutes sortes de fausses contemplations. Le bien et le mal n'existe pas dans l'univers, mais en toi. Et le seul moyen de t'en sortir, ce sera toujours, toujours ton discernement, ton intelligence. Donc comment savoir si c'est par exemple l'obscur qui motive en toi certains désirs, certaines pensées, et qui en apparence sont revêtues d'un motif juste et nécessaire. Comment faire le tri? C'est comme si en fait il n'existait pas un mal et un bien, mais un vrai bien et un faux bien. C'est plutôt comme cela qu'il faut imaginer le bien et le mal, le vrai et le faux. Ce n'est pas comme s'il existait quelque chose qui soit contraire à la vérité, mais plutôt quelque chose qui masque la vérité et qui se fait prévaloir comme étant une vérité supérieure à celle que l'homme devrait contempler. Et c'est comme cela que les temples sont abattus, vois-tu. Quand un temple doit mourir, on ne se dit pas, tiens, il faut aller dans la montagne sacrée, aller dans la cave de la montagne, ouvrir les grilles derrière lesquelles se cache le diable et le titan. Et puis nous allons lâcher ce titan et ce titan va ravager pour nous tout ce qui n'est pas bon. Nous ne nous y prenons pas de la sorte. Nous laissons tout simplement les mirages avoir lieu. L'homme sait mieux que tous les diables être son propre assassin. Nous n'avons pas besoin d'en fabriquer un. Nous laissons tout simplement les mirages avoir lieu. Et plus les mirages ont lieu, plus le temple s'oriente vers un faux Dieu. Et dès qu'il se raccorde, se connecte à ce faux Dieu, le temple cesse d'exister. Alors je te le dis, ne reste pas dans ces endroits-là. Prends ce qu'il y a d'essentiel, prends toute la richesse que tu as pu acquérir, c'est certain. Mais va très vite, à ta manière, avec la nouvelle jonction que toi, tu es capable de faire, grâce à la vision pure et claire qu'il y a en toi. Va très vite construire une autre église. Même si tu utilises les mêmes instruments. N'hésite pas dans ton jardin à arracher ce qui ne va pas. Ne laisse pas les vieilles herbes se perpétuer. C'est inutile. Elles t'envahiront et un jour, elles seront ta tombe. Tu coupes, tu arraches, tu balayes, tu brûles et tu rebâtis. Tout simplement. Donc, quand un homme veut discerner en lui-même ce qui est un clair motif de ce qui est un motif obscur, il faut toujours qu'il essaye de tester ses motifs vis-à-vis des grands principes. Et s'il voit que le grand principe, pour exister, n'a pas besoin que l'homme se prostitue de telle ou telle manière, par exemple une tolérance excessive qui n'amène à aucun changement, ou par une patience excessive qui ne peut que servir à la mollesse et la décadence, à ce moment-là, tu sais tout de suite faire le tri et faire le choix. Il n'est pas nécessaire que l'on te dise petit A dans tel cas, petit B dans tel cas, petit C dans tel cas. Compare avec les grands principes. Les grands principes, c'est l'amour, la force, l'unité. Donc, partout où il n'y a pas l'amour, la force, l'unité, décapite, fais tomber les murs, cherche de nouveaux partenaires et construis de nouveaux. Et si, dans ce nouveau temple, il y a encore à un moment donné une brique qui commence à créer des mirages, eh bien, de nouveau, décapite, brûle, démolit et reconstruit. C'est ce que Dieu en personne fait. C'est ce que tous les maîtres font. Ils permettent la création des temples, que ce soit l'Église catholique, ou des annexes beaucoup plus occultes, comme des annexes par exemple maçonniques ou autres, qui sont en fait l'expression occulte de l'énergie christique de cette terre des poissons. Et lorsque cela ne va plus, la loi vient et décapite. Donc, fais-en de même. Et à l'intérieur de toi, pour ta propre évolution, accomplis aussi la même chose. Regarde de quelle manière tu construis des religions. Tu reproches au monde extérieur de construire des religions. L'homme a toujours la bouche ouverte pour crier « ça ne va pas, ça ne me plaît pas, pourquoi il y a ceci, Dieu ferait mieux de créer autre chose » et les maîtres, ils devraient venir pour donner autre chose, quelque chose de nouveau, de fort, de clair, de vrai, de puissant. L'homme est toujours prêt à revendiquer et il ne voit pas qu'en lui-même, il crée exactement ce qu'il reproche, qu'il voit dans le monde. Par exemple, beaucoup d'hommes reprochent au monde d'être à tendance religieuse. Ils disent que c'est inadmissible que la religion soit devenue si forte et qu'elle se perpétue. D'autant plus que j'en suis sûre, dans les prochains siècles, l'homme trouvera encore le moyen de faire des religions, quel que soit le nouveau culte qui soit apporté par un nouveau Messie. Certains pensent que c'est dans la nature humaine et dans la faiblesse humaine que de créer des religions. Alors très bien, j'entends ce que tu dis. Tu reproches l'existence de la religion sur la terre. Mais regarde en toi une seconde. Regarde en toi toutes les religions qui existent. Lorsque, par exemple, tu t'habilles pour plaire, c'est une religion. Lorsque, par exemple, tu te voues et te dévoues à un vice, c'est une religion. Tu es soumis à un principe, comme le dévot est soumis au principe de Dieu le Père et du Pape. Ton Pape à toi, dans ce cas-là, c'est ton vice. Ou ton illusion, ou ton ambition, ou ton orgueil. Et d'un seul coup, tu te vois toi-même comme étant ta propre religion. Parce que ton ego inférieur se veut être ton pape et il essaye de te soumettre et de te soumettre à un culte ignoble. Il faut que tu le pries, il faut que tu le vénères chaque matin. Et comment est-ce que l'ego inférieur se débrouille pour que tu le vénères chaque matin? Tout simplement en te culpabilisant. Il met dans le cerveau une petite case qui s'appelle l'image et il se dit « je vais appuyer sur cette image et je vais culpabiliser l'image ». Comme ça, le matin, dès qu'il va se lever, s'il trouve que son ventre est flasque et disgracieux, il va se culpabiliser et il fera tout pendant toute la journée pour rentrer le ventre, même si pour cela il doit s'étouffer toute la journée. Comme ça, moi, l'image, comme cela, moi, l'ego, je vivrai, je serai vénéré. Avec un tel idiot, il n'y a aucun problème pour jouer la soumission. Il croit tout ce que je lui dis. Je lui dis « ton nez est trop large », il le croit et il en souffre. Alors après, je viens et je le console et je lui dis « mais écoute, il y a mille façons d'arranger cela. Regarde cette méchante nature, ce qu'elle t'a fait. » Alors je vais t'indiquer où il y a un bon esthéticien. Je vais te dire où il y a un très bon chirurgien. Je vais te dire comment on peut se maquiller. Je vais te dire quel cache-nez tu dois prendre l'hiver pour mieux le dissimuler, parce que quand il est rouge, il devient encore plus gros. Et puis surtout, je vais t'expliquer comment orienter ton profil pour que sur les photos, il n'apparaisse pas. De cette manière-là, sur le passeport, sur la carte d'identité, tu auras le plus beau visage que l'on puisse souhaiter. L'ego essaye de vous soumettre à son culte par tous ces moyens-là. Et ainsi, celui qui veut être fort, celui qui veut être quelqu'un dans la société, celui qui veut avoir un poste important, que ce soit grâce à l'argent, grâce à la politique, ou grâce à l'occultisme. Chaque fois que quelqu'un veut être, donc d'une quelconque manière, important, c'est l'ego qui essaye de favoriser son culte. Donc vous êtes religieux. C'est dans votre nature inférieure de toujours se soumettre à un principe, parce que vous l'avez admis, vous l'avez accepté, et que vous jouez le jeu. Donc comment faire en sorte, même si nous étions des milliards et des milliards de maîtres, tous ensemble réunis autour de la Terre, essayant de faire un baptême splendide pour l'humanité. Même si nous étions ce nombre immense, nous ne pourrions tuer l'esprit de religion sur la terre. Parce que vous le transportez comme un nombril sur le ventre, comme des cheveux sur votre tête. Vous transportez la religion parce que vous vous soumettez toujours à cet ego. Donc, pour ceux qui perdent trop facilement leur énergie dans la critique et qui disent « oui, il y a la franc-maçonnerie, mais ça ne vaut plus rien, c'est terminé. Oui, il y a les catholiques, mais c'est terminé, les curés, il ne faut plus m'en parler. Ah oui, puis il y a d'autres groupes qui naissent comme cela spontanément, mais ce n'est pas le nouveau culte, il ne faut pas m'en parler. Moi, je reste dans mon coin, je me fais ma petite méditation, et j'attends que l'on soit vraiment entré dans l'ère du Verseau pour rencontrer le Messie qui lui donnera le vrai rituel, et à ce moment-là, je m'engagerai. » Il y a beaucoup de gens qui parlent de la sorte et qui se disent « Je ne vais pas m'asseoir entre deux chaises, j'attends que le fauteuil arrive. » Bien sûr, ce n'est pas pratique d'être assis entre deux aires, l'ère des poissons, l'ère du Verseau. Ce n'est pas facile de savoir si l'on doit lâcher un rituel au profit duquel que l'on ne connaît pas encore. Et beaucoup de gens se disent, mais qu'il est difficile ce siècle à vivre, parce que tout s'en va qui appartenait à l'ancienne ère, et rien n'apparaît encore qui appartiendra à la nouvelle ère. Alors, si tu es Jésus, ou si tu es un prêtre de Dieu, je t'en prie, dis-moi où je dois aller. Ne me laisse pas dans cette torture. C'est ce que disent souvent les disciples. Et que répond le maître? Le maître dit, tu sais, si tu comptes éclairer ta route en laissant de côté la vieille lanterne qui s'éteint pour prendre une autre lanterne qui s'allume, la route ne sera toujours pas plus éclairée. Bien sûr, tu auras une autre bougie entre les mains. Bien sûr, le peu de lumière qu'elle peut te donner, tu l'auras de nouveau. Mais ce n'est pas pour autant la lumière. Ce n'est pas pour autant le grand jour qui doit avoir lieu et qui doit se lever sur ce paysage qui entoure la route pour que tu le contemples. Donc, quel que soit, ce qu'il y a de désagréable à vivre lorsque l'on est coincé entre deux airs, une qui meurt et une qui essaye de naître, quel que soit ce déséquilibre, dis-toi bien qu'il n'y a pas de déséquilibre. Celui qui attend que la nouvelle ère soit bien en route pour que Maitreya, ou que le nouveau Messie soit venu et qu'il ait donné la nouvelle énergie, le nouveau rituel, le nouveau culte. Tous ceux qui attendent ça sont perdus autant qu'ils le sont aujourd'hui et qu'ils l'étaient hier. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ce sont encore des gens qui pensent que, très bien, le train arrive dans une gare. Très bien, à cette gare-ci, il faudra changer de train. Ils descendent tous leurs bagages, ils se mettent sur le quai et ils attendent le nouveau train. Et le train ne vient pas. Parce que le train, celui qu'ils doivent prendre, est en train de passer dans une autre gare qu'ils ne soupçonnaient pas. Automatiquement, ils ratent le train. Non seulement ils restent à l'endroit où ils sont descendus, mais en plus, alors que leur désir les motivait dans ce sens, ils n'arrivent pas à entrer dans le nouveau train. Donc, quand tu sais qu'un train va arriver à échéance, dans une gare, et qu'il faudra en descendre, ne descends pas avec tes valises, première erreur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans la gare, il y a un gardien du bon Dieu. Il est très malin, ce gardien. Il regarde les gens qui descendent avec leurs bagages. Et chaque fois qu'il voit quelqu'un descendre avec les bagages, il dit « Celui-là n'est pas bon pour le train du bon Dieu ». Et automatiquement, celui qui est descendu avec des bagages reste là sur le quai avec ses bagages, comme je vous l'ai dit. Tandis que celui qui descend en laissant ses bagages dans le train, qui descend tout nu sur le quai en fait, celui-là est comptabilisé comme pouvant partir dans le train du bon Dieu. Et alors que l'ange apparaît invisible à tous les autres, l'ange est visible à celui-là, celui qui est descendu sans bagage. Et l'ange lui dit, « Suis-moi, je vais t'emmener vers la nouvelle gare où il y a le train pour le bon Dieu. » Et les autres qui n'ont pas vu l'ange se demandent pourquoi est-ce que le train n'arrive pas. Et ils commencent à piétiner, ils commencent à essayer d'improviser la vie, ils commencent à faire des pique-niques, à rapporter par exemple des branchages ou de la paille pour faire des couchettes. Et ainsi sur le quai s'organise une nouvelle vie, une vie précaire. Et c'est ce que font généralement à l'heure actuelle toutes les communautés. Tous les groupes qui spontanément se créent et essayent de servir le bon Dieu, mais sans avoir le souci de faire valoir la libération de l'homme avant tout. Je mets donc dans cette classe-là tous les mouvements, tous les groupes, toutes les communautés qui essayent de créer un nouveau culte, que ce soit en prenant des cultes anciens et en les rafraîchissant un peu, ou que ce soit en créant leur propre culte. Mais ces cultes-là n'iront nulle part. Ils vous feront rester sur le quai. Quand vous passez à l'intérieur de ces organisations, tout ce que vous pouvez faire, donc, c'est non pas de détruire et de dire « Attention, mon pasteur m'a dit que toutes ces choses sont illusoires, alors je viens et je brise votre table pour vous libérer de votre bêtise et vous emmener à l'endroit où l'ange m'a conduit. » Vous devez passer et dans l'oreille, glissez le mot. Tu sais, la vérité, c'est la liberté. Ce n'est pas le culte. Et celui qui t'entend, celui-là, tu le prends par la main et tu l'emmènes à la nouvelle gare où tu as été amené toi-même avant lui. Donc, dans tout ce que je viens de dire, dans toutes ces images que j'ai utilisées, ce que je veux vous faire comprendre, ce que je veux rendre vivant en vous, et absolument vivant. Et si cette chose-là n'est pas vivante, ce n'est pas la peine que tu restes jusqu'à la fin du discours. Pars tout de suite. Je ne veux pas de vieilles casseroles accrochées après moi. Je ne veux pas ces marmites sonores qui font tant de bruit lorsque on les bouscule sur le sol de la terre. Je veux des cierges derrière moi. Derrière lui, derrière le maître. Je veux des cierges allumés. Tous ceux qui sont derrière lui, en disant « J'ai compris, j'ai entendu, je vais faire. Maintenant, je médite. Maintenant, je prie. Tous ces gens-là qui, forts de leur culture ésotérique ou de leur culture religieuse, se mettent à juger les uns les autres, à classifier le monde dans le septième rayon, dans le troisième rayon, à déterminer si Sirius frappera la Terre à telle heure, alors que le soleil sera couché derrière la Lune. Tous ces gens qui, de cette manière-là, organisent le monde et jugent le monde, sont des grosses marmites vides qui font un vacarme insupportable. Ils s'accrochent à la locomotive de la connaissance, à la locomotive de la lumière, uniquement pour faire leur propre tapage. Et que fait la locomotive du bon Dieu? Eh bien, à un moment donné, il y en a assez de ce tapage. Parce que d'abord, cette locomotive elle-même ne fait aucun bruit. Et elle traverse un pays sans bruit. Donc il faut balayer toutes ces marmites au ventre vide qui ne font que résonner le tapage. Et ces disciples-là se retrouvent un jour sur le bord du chemin et ils font le bilan de leur spiritualité. Ils se disent, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché, c'est pas possible. Voilà 20 ans que je prie, 20 ans que je médite. Voilà 20 ans que j'essaye de remporter toutes les épreuves. 20 ans que je supporte ma femme, et Dieu sait que là, c'est la plus grande des épreuves. Et tout ça en silence, patiemment. Et rien n'a changé en moi. Je n'ai pas vu Dieu, je n'ai pas entendu ou pressenti sa voix. Je n'ai pas vu ma kundalini monter ou mon arbre de vie être envahi par tout ce feu et être secoué. Je ne reçois pas des prières fantastiques comme certains médiums. Je n'arrive pas à dilater mon cœur parce que mon cœur n'existe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce genre de disciple s'assoit. Il ne fait plus rien. Il reste là à reprocher au maître de l'avoir négligé, de ne pas avoir eu pitié de lui. Il reproche au bon Dieu d'être trop loin et de ne pas s'occuper suffisamment de l'humanité. Il reproche à la vie d'être trop dure et de l'avoir mangée, noyée. Et il regarde une dernière fois le ciel en disant, « Tu comprends, Seigneur, c'est si dur de gagner sa vie. C'est si dur de travailler 8 heures et de penser à toi malgré tout. » Et le bon Dieu le regarde et lui dit, « Oui, je te comprends. Bien sûr, c'est dur de travailler 8 heures. » et de penser encore à moi. Mais c'est dur uniquement parce que quand tu travailles, tu ne fais pas ce travail pour moi. Si tu le faisais pour moi, tu penserais à moi. Tu le ferais sans cesse en me l'offrant. À ce moment-là, je t'habiterai pour pouvoir l'accomplir, puisque il deviendrait mon travail, puisque tu me le donnes, puisque tu me l'offres. Mais voilà, avec ta maladie de la séparativité, tu crois toujours qu'il y a toi, le Fils, l'incarné, qui doit travailler 8 heures pour gagner ton pain, et qu'il y a moi, le Père, l'Esprit, qui doit t'attendre à la sortie du travail pour entendre ta prière. Sitôt que tu me rejettes hors de ta vie, je ne peux donc pas y être. Sitôt que tu me rejettes hors de ton travail, je ne peux pas y être. Si tu me mets loin de ton foyer, je ne peux pas y demeurer. Mais si tu m'accueilles dans ton travail, si tu m'accueilles dans ton épreuve, si tu m'accueilles dans ton chagrin, là, je suis et je t'aide, je t'améliore presque malgré toi. Je suis ton courage à ce moment-là. Je suis ton espoir que l'on ne peut éteindre. Je suis ta force que l'on ne peut détruire. Je suis tout cela en toi. Si tu me laisses exister. Mais si tu te dis, il y a la société d'un côté qui n'a pas compris Dieu, et il y a Dieu de l'autre qui ne comprend décidément pas la société, alors entre les deux, il y a moi qui essaye d'être disciple, comment veux-tu que je fasse, Seigneur ? Il est normal que je doive attendre d'avoir fini mon travail pour te prier, pour penser à toi, pour te louer, pour me rappeler ton nom. Eh bien moi, je te dis non. Tu auras beau me trouver tous les prétextes pour me faire admettre que lorsque tu es au travail, tu n'as pas le temps de penser à Dieu, je te dis, tu te trompes, tu es dans l'erreur. Tu es le disciple le plus absurde que la terre ait jamais porté. Et tu ne mérites même pas que je t'indique comment rendre Dieu vivant dans ton travail. Parce que si tu es à ce point matériel, matérialiste, ignorant, aveugle et sourd, je ne peux plus rien pour toi. Sors d'ici. Allez, sors. Va-t'en. On dirait que tout le monde reste. J'ai beau vouloir chasser tout le monde, on dirait que finalement, ils me trouvent intéressant, à moins qu'ils soient tous masochistes. Vous avez de la chance, il n'y a en moi aucun plaisir à faire mal, aucun plaisir à faire des moqueries. Je veux simplement soulever en vous des mouvements, des énergies. Quand je te crie « va-t'en, va-t'en, sors, meurs », quand je te crie ces choses, tu trembles. Quelque chose en toi veut malgré tout partir, mais tu n'oses pas prendre ton manteau. Quelque chose en toi veut vraiment partir, alors qu'en même temps, une autre partie de toi veut rester. Eh bien, laisse partir la chose qui veut partir. Lâche. Fais sortir hors de ton esprit cette énergie qui était coincée. Ce n'est pas à ton corps que je dis « soulève-toi et sors de la pièce ». C'est à une multitude d'énergies qui sont en toi et qui doivent disparaître. Toutes ces énergies doivent mourir, se dissoudre. Sinon, je parle pour rien et tu es là pour rien. Je suis très économe, je ne veux ni être là pour rien, ni te faire être là pour rien. Donc, je te le répète. Sors, va-t'en et laisse tomber, laisse sortir. Quand je dis sors, pense à la chose qui doit sortir hors de toi. Tu as un chagrin, propulse ce chagrin hors de toi. Tu as une haine, propulse-la sur le seuil. Tu as un orgueil, mets-le à la porte. Et laisse-le s'échapper au moment où je dis « sors !» Et tu verras, il partira. N'est-ce pas qu'il est parti ? Maintenant que tu es plus léger, je peux te dire comment mettre Dieu partout. Comment comprendre que cette existence est partout. Une fois que tu enlèves hors de toi tout ce qui t'empêchait de voir Dieu, Dieu apparaît parce qu'il a toujours été là. Donc quand tu viens dire au maître ou quand tu dis à ta propre conscience, eh bien tu sais, aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de méditer parce que, eh bien parce qu'il a fallu que je travaille et que je suis débordée et que maintenant j'arrive devant toi et je n'ai plus d'énergie et je suis tellement énervée qu'il ne faut plus rien me demander. Quand tu dis ces choses-là, c'est tout l'obscur qui est en toi qui essaye de t'éloigner de la vérité. Et un voile se dresse qui t'empêche encore plus de voir Dieu. Comment faire alors? Dans un premier temps, tu dois essayer de détruire les images, comme je te l'ai dit. Plus tu détruiras les images et plus tu brûleras les voiles qui t'empêchent de voir que Dieu existe en toi. et qu'il existe à l'instant où tu es en train de taper la machine à écrire, qu'il existe à l'instant où tu es en train d'accoucher et où il te semble que ce n'est vraiment pas le moment pour faire une méditation. Et pourtant si, tout peut être méditation. Lorsque tu donnes la vie, est-ce que ce n'est pas le plus beau des cadeaux, la plus belle des imitations de la vie de Dieu? Et lorsque tu es en train de mourir, c'est la même chose. Cela devrait représenter la plus belle des méditations, la plus grande. Et que font les humains? Ils se terrent, ils se recroquevillent de terreur. Ils disent non, 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 je ne veux pas partir. Aie pitié de moi, laisse-moi vivre encore quelques jours. Je ne veux pas de cette grande méditation. C'est cela qui fait peur à l'homme. C'est de méditer une bonne fois pour toutes. Et pourquoi cela lui fait peur? Cela lui fait peur tout simplement parce qu'il sait qu'il ne pourra plus incarner les images. Alors toutes les images se ruent en lui et crient « Nous voulons vivre ! Il ne faut pas mourir ! Nous voulons exister ! » Alors sache que ta peur de la mort, ce n'est pas la tienne. Comprends-le, exorcise une bonne fois pour toutes cette peur, cette réticence, cette crainte. Car même si tu es un disciple, tu as quand même l'appréhension, quelque part. Alors tu t'inventes une somme immense de fausses raisons. Tu te dis, je vais vivre suffisamment pour évoluer. Je veux que l'on me laisse le temps le plus long possible pour avoir toutes les occasions d'évoluer. Je veux vivre longtemps pour pouvoir faire du bien longtemps. Et moi, je te dis, tu veux vivre longtemps pour perpétuer ta bêtise. C'est ça, oui, surtout, ton motif. Toutes ces fausses raisons qui semblent être des raisons et que tu acceptes justement parce qu'elles paraissent être des raisons de vérité. Je te le dis, le discernement serait facile s'il y avait un diable vraiment noir et un Dieu vraiment blanc. Mais il n'y a pas un diable et un bon Dieu. Il y a un vrai Dieu et un faux Dieu. Comprends-le. Et tu arriveras beaucoup mieux à discerner après. Et surtout, tu arriveras mieux à dialoguer avec toi-même. Et aussi, tu arriveras à t'aimer toi-même à ce moment-là. Quand tu comprends que c'est ta fausse divinité qui de temps en temps te donne des prétextes, ceci ou à ne pas faire cela, alors tu ne te culpabilises plus. Tu ne détournes plus l'énergie pour te haïr toi-même et te dire « j'ai échoué ». Finalement, je ne suis pas si bon que ça, si beau que ça, si évolué que ça. Je ne suis pas si engagée que ça vis-à-vis du bon Dieu. Au moment où tu te dis ces choses, sache que c'est encore la fausse divinité qui est en toi et qui, voyant que peut-être ce jour-là, tu aurais pu décoller suffisamment pour contempler Dieu et qu'elle ne pouvait tolérer cela, alors elle envoie une image de culpabilité. Et de la même manière, tu as peur de la mort. Sache donc que la peur de la mort n'est pas la tienne. Tu n'as pas peur de mourir. Tu as peut-être peur d'exister. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, je te garantis, tu n'as pas peur de mourir. Parce que tout simplement, tu le sais au fond de toi qu'on ne meurt pas. Par contre, il peut persister une peur psychologique de la mort. Mais ce n'est pas encore la peur de la mort. C'est plutôt la peur de toutes les morts. De quelle mort s'agit-il? Il s'agit là de la mort de ton orgueil, la mort de ta jalousie, la mort de ton ego inférieur, tout simplement. Et à l'intérieur de lui, la mort de ton avarice, la mort de ton rêve, la mort de toutes tes illusions, la mort même de ton désir d'évolution, de ton désir d'être un initié et d'empoigner la lumière du ciel. Toutes ces morts-là doivent avoir lieu. Mais comme les spectres que ces illusions agitent avant de mourir, comme ces spectres-là, eux, sont bien vivants grâce à toi, grâce à l'honneur que tu leur fais de les perpétuer, de les nourrir, comme ces spectres-là sont bien vivants, ils deviennent autonomes. Exactement comme lorsqu'un magicien crée dans l'astral un esprit. Il prend l'énergie d'un élément, par exemple l'eau. Il prend un certain nombre de particules de cette énergie. Il entoure ces particules dans un cercle magique. Il fait résonner grâce à l'épée ou au bâton au centre de ce cercle magique. Il fait résonner un son qui est généralement le nom d'une hiérarchie d'anges inférieurs.